France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Une question d'actualité pour commencer, qu'est-ce qu'un budget fiable? Alors que les discussions autour de la partie recette du projet de loi de finances pour 2026 se poursuivent, Xavier Jaravel et Sébastien Cotte nous expliqueront à quel horizon budgétaire doit-on et surtout peut-on aspirer. Et puis dans une seconde partie, retour comme tous les lundis sur l'histoire de la pensée économique. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre série consacrée à cette vaste question, notre modèle social est-il matérialiste? Nous en parlerons avec la chercheuse Alexa Glin autour de la question de la promesse de l'abondance. Et comme tous les lundis, à 14h55, nous retrouverons l'économiste et historien Arnaud Aurin pour le fil de l'écho. Mais pour commencer, une parenthèse et un regard sur l'actualité de la semaine passée, une parenthèse qui investit cette semaine dans la pierre. La semaine dernière, donc, une étude d'Imostat nous apprenait que les résidences étudiantes font actuellement l'objet d'un véritable engouement financier. Ce sont près de 984 millions d'euros qui ont été investis depuis le début de l'année 2025, un record. Dans leur très grande majorité, il s'agit de capitaux étrangers et on retrouve parmi les acheteurs le fonds américain Novin Real Estate ou encore JP Morgan. Et il faut dire que l'investissement est sûr, une demande forte, des taux de vacances faibles, dans un contexte de pénurie généralisée, c'est l'assurance de pouvoir pratiquer des prix qui n'ont pas besoin d'être attractifs. Le loyer pour une chambre peut s'élever à 1200 euros par mois, racontent les Échos. JP Morgan, je le disais, investit donc dans le logement étudiant, mais aussi dans ses propres bureaux. Mardi dernier, la banque a inauguré son nouveau siège au numéro 270 de la Park Avenue à New York, soit une tour de plus de 230 000 mètres carrés, la sixième plus haute de la ville, dont le coût est estimé à environ 3 milliards de dollars, preuve selon l'AFP du renouveau de l'immobilier de bureaux new-yorkais qui depuis la crise sanitaire était en berne, de quoi nous donner envie à nous du côté français avec notre marché immobilier qui compte toujours 9 millions de mètres carrés de bureaux vides qui pourraient être vus comme une aubaine face aux 4,1 millions de personnes mal logées en France. Problème, ces espaces sont devenus des actifs financiers justement et l'idée de reconversion de ces espaces se heurte là encore à des objectifs de rentabilité et donc à des stratégies peu adaptées aux besoins. C'est ce que raconte la chercheuse Marine Duros, autrice de l'ouvrage Immobilier hors sol, comment la finance s'empare de nos villes, dans une tribune publiée il y a dans le journal Le Monde. Une solution face à la crise du logement, c'est celle du co-living, soit un mélange de logement et d'hôtellerie qui concentre désormais la moitié des investissements nationaux en termes de résidences gérées. Des investissements qui attirent parce qu'ils sont là encore très rentables. Vendredi dernier, Le Monde rappelait que Paris, Lyon et Montreuil tentent désormais de mettre en place des dispositifs de régulation de cette nouvelle forme de colocation, vue comme une façon de contourner l'encadrement des loyers. D'immobilier et de privatisation, il a encore été question cette semaine puisque le nouveau siège de la Fondation Cartier pour l'art contemporain a ouvert ses portes samedi dernier. Un concentré de Paris, selon son architecte Jean Nouvel, qui suscite enthousiasme mais aussi forte critique au sein de la majorité municipale. C'est ce que dit notamment Frédéric Occard, adjoint apparenté écologiste au tourisme à l'Hôtel de Ville. Il faut réguler le surtourisme, déconcentrer pour que les gens aillent visiter d'autres quartiers. Sinon, on va mourir. La régulation face à la privatisation, un combat qui n'est pas nouveau, mais qui ne cesse de trouver de nouvelles incarnations et de se renouveler face à l'inventivité des uns et à la relative impuissance des autres. Et je referme là cette parenthèse, place à notre question d'actualité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un budget fiable?
Il y a dans cet hémicycle une ligne de convergence, la volonté que la France soit indépendante. C'est un cap politique qui peut nous réunir. Je ne vois aucun député dans cette Assemblée qui avance ou prétend le contraire.
Tous les gens raisonnables pensent que la priorité des priorités, c'est de réduire la dépense publique. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire.
Notre contre-budget n'est pas un autre budget. Si notre contre-budget peut paraître ambitieux, c'est parce qu'il s'attaque avec force et volonté à ce que j'ai appelé les quatre tabous de la politique budgétaire. Remettre l'État à la bonne place, arrêter les dépenses inutiles, inefficaces, voire toxiques, et surtout répondre aux préoccupations des Français, voilà le contre-budget du groupe Rassemblement National.
Donc nous présentons en réalité plus qu'un contre-budget, on peut dire un budget alternatif par rapport à celui qui nous est aujourd'hui présenté et qui n'est que la suite des budgets macronistes que nous subissons depuis 2017. Donc le budget que nous allons proposer, pour être très clair, mes collègues vont ensuite le détailler par les plans, c'est un budget qui ne vise pas à aménager le budget macroniste.
Notre histoire parlementaire a été faite de rapports de force. Il est temps qu'elle devienne celle du compromis.
Après avoir été examiné en commission des finances à partir du lundi 20 octobre, puis rejeté, la partie recette du projet de loi de finances et ses quelques milliers d'amendements sont partis vendredi devant l'Assemblée nationale. Aujourd'hui commencent les discussions autour du budget de la sécurité sociale et depuis une semaine, on l'entendait, tout le monde y est allé de ses propositions. C'était notamment le cas des propos de Marine Le Pen et d'Éric Coquerel que vous entendiez à l'instant. Alors qu'est-ce qui fait qu'un budget peut être qualifié de fiable, de crédible? La seule notion d'équilibre fondée sur une objectivation chiffrée produite notamment par les économistes peut-elle, doit-elle servir d'argument suprême face aux discussions politiques? Deux invités pour nous aider à comprendre aujourd'hui comment se construit un budget. Xavier Jaravel, économiste, professeur à la London School of Economics et président délégué du CAE, le Conseil d'analyse économique, instance indépendante et rattachée à Matignon. Xavier Jaravel, bonjour.
Bonjour.
Également avec nous Sébastien Cotte, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités, spécialiste de droit public financier et vous êtes actuellement à l'Institut National du Service Public. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Sébastien Cotte, un point pour commencer et bien comprendre la situation actuelle. Le texte qui est examiné depuis vendredi, eh bien le texte initial de projet de loi de finances tel qu'il a été déposé par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale. Pourtant, je l'ai dit, ce dernier a été rejeté dans la nuit de mercredi à jeudi. Philippe Juvin, le rapporteur général du budget, a estimé que le budget tel qu'il est n'est pas crédible. Alors pourquoi repartir de zéro et ne pas tenir compte des 3 jours de débat qui ont eu lieu à la commission de finances?
Ben, vous venez de le dire, 3 jours de débat, c'est quand même un peu court pour parler du budget.
Avec 1800 amendements.
Voilà, avec 1800 amendements, donc tant qu'à faire, autant repartir en séance. Non, mais la vraie explication relève de l'article 42 de la Constitution qui prévoit explicitement que c'est le texte présenté par le gouvernement qui est discuté en séance. C'est un héritage de la 4e République au moment où les budgets étaient faits et refaits en commission des finances, et entre-temps, il ne vous aura pas échangé que le système a un peu changé. On est passé d'un régime parlementaire à un régime semi-parlementaire, ce qui explique ce dispositif.
En tout cas, on repart donc de zéro, ou en tout cas, la discussion reprend point par point tout ce qui a déjà été discuté. Vendredi matin, le Premier ministre Sébastien Lecornu a ouvert les discussions en précisant qu'il s'agissait là d'un budget de transition. J'essaie de pointer toutes les spécificités qu'il y a dans ces discussions. Xavier Jaravel, que faut-il entendre par là? Est-ce qu'on doit comprendre que c'est un budget qui n'est pas amené à s'inscrire dans la durée ou à perdurer? Comment comprendre cette notion de transition?
Déjà, évidemment, la situation d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et que donc le projet de loi du gouvernement, c'est vraiment un point de départ qui va totalement changer. Donc, en ce sens, il va y avoir une transition dans le texte. On peut espérer que ce soit aussi une transition à la fin vers plus d'équilibre budgétaire, mais l'avenir nous dira combien d'efforts, effectivement, peut être produit. Et puis, la situation politique va être amenée à évoluer et on verra quelles sont les prochaines échéances. Mais voilà, au plus tard, en 2027, il y aura a priori des changements importants. Et donc, c'est en ce sens aussi qu'il y a une transition.
Sébastien Cotte, cela nous amène à un point fondamental pour bien démarrer aussi notre discussion. Qu'est-ce qu'au juste qu'un budget? On l'a entendu, chacun propose le sien. Il y a celui du gouvernement qui est discuté. Est-ce que c'est l'expression d'un rapport de force politique ou un acte administratif pratique, une feuille de route?
Ben c'est les deux, chère Aliette. Du point de vue du juriste, le budget est avant tout un acte financier. C'est un état financier qui présente des recettes et qui présente des dépenses et qui ainsi donne à voir ce qu'on appelle les voies et moyens du financement de l'action publique. Les voies et moyens, moyens combien, les voies, par quoi ça passe, par quelles recettes, par quelles dépenses et à quel niveau. Mais vous l'avez très bien dit, c'est aussi un acte politique. Alors c'est un acte politique essentiellement depuis la Révolution et l'irruption du Parlement dans le schéma de la démocratie financière, en tout cas dans la construction d'une démocratie financière. Depuis qu'on a un Parlement, le Parlement intervient et donc évidemment on retrouve deux éléments du politique, un rapport de force entre l'exécutif, le législatif ou au sein du législatif, mais aussi l'expression d'un plan politique parce que derrière les chiffres, il y a évidemment de l'action publique et donc des intentions politiques.
Et comment comprendre que certains groupes parlementaires proposent leur budget, qui ne sont même pas énoncés comme des contre-propositions, mais vraiment comme des budgets alternatifs, voire des contre-budgets? Est-ce que ça a un sens de votre point de vue du juriste que vous êtes?
Non, pour moi, ça a très peu de sens. Je vais essayer de le dire assez simplement. On sait qu'on parle de 1700 milliards de dépenses publiques, 500 milliards concernant l'État. Derrière tout ça, il y a des gens qui forment des enfants, des gens qui sauvent des vies, des gens qui jugent, des gens qui protègent. Il y a de la dépense de santé. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de 2,5% de ces 1700 milliards, à quelque chose près. De mon point de vue, on a 97,5% de la dépense publique qui est globalement stable, globalement pérenne, et qui fonctionne plutôt bien. Il y a certainement des choses à faire, mais ça fonctionne plutôt bien. Donc, quand j'entends, moi, que ce budget ne serait pas un bon budget, ben, j'ai un petit peu mal à mon petit cœur.
Xavier Jaravel, je ne vous demanderai pas comment se porte votre cœur, mais sur cette question des contre-propositions, des contre-budgets, il y avait eu notamment la proposition du RN qui avait été soumise, on va dire, à l'approbation, enfin en tout cas au regard de certains économistes, et beaucoup avaient pointé à ce moment-là finalement, le budget du RN s'affranchissait de certaines règles qui étaient celles que chacun doit respecter lorsqu'on essaie de construire un budget. Est-ce qu'il y a des règles économiques en termes de construction du budget dont on ne peut pas justement s'affranchir ?
Peut-être deux éléments simples. Le premier qui est budgétaire plus qu'économique, c'est qu'il faut être d'accord sur les ordres de grandeur de différents chiffrages. Donc qu'est-ce qu'un budget fiable ? C'est d'abord un budget qui s'appuie sur les bons ordres de grandeur pour les différentes mesures qu'on entend mobiliser. Dans le cas du contre-budget de Marine Le Pen, effectivement, il y a plein de mesures qui semblent assez surprenantes du point de vue du chiffrage. Par exemple, des éléments sur la taxation des rachats d'actions, des transactions financières qui représenteraient une vingtaine de milliards d'euros. Et on pense qu'en fait, ce serait beaucoup moins du fait d'ajustements de comportement des uns et des autres. Et puis l'autre élément, c'est l'effort global qu'on veut produire. Et de ce point de vue-là aussi, c'est assez objectif, c'est-à-dire si on veut stabiliser la dette, il faut trouver de l'ordre de 82 milliards d'euros d'économies, c'est-à-dire soit des recettes supplémentaires, soit des dépenses réduites. Et si on veut aussi avoir une marge de sécurité pour faire face à la prochaine crise économique, c'est plutôt de l'ordre de 110 milliards d'euros d'efforts budgétaires.
Ça, Xavier Jaravel, ce sont les chiffres qui sont énoncés dans une note que vous avez publiée le 16 octobre dernier, dans le cadre du Conseil d'analyse économique dont vous êtes le président délégué. Cette note est intitulée « Comment stabiliser la dette publique ?» Point d'interrogation. Quel était le but précisément, justement, en énonçant cet horizon, cet objectif chiffré et de les mettre sur la table ?
Essayer de contribuer un peu à essayer de cadrer le débat parlementaire et de le nourrir aussi, c'est-à-dire le cadrer en termes d'horizon d'efforts budgétaires à fournir si on veut stabiliser la dette publique. Et donc voilà, dépenses 80 milliards, hors de grandeur 80 milliards ou 110 si on veut avoir une petite marge de sécurité. Et ensuite, et surtout en fait, dans ce travail, c'était de faire un travail de recensement de nombreuses mesures du côté des recettes, du côté des dépenses ou du côté de réformes structurelles, c'est-à-dire pour améliorer la productivité, faire baisser le chômage, améliorer le taux d'emploi, et de voir combien différentes mesures peuvent rapporter. Donc il y a 170 mesures qui d'ailleurs, dans leur inspiration politique, vont dans toutes les sensibilités qui soient, et à chaque fois en faisant un travail pour avoir un chiffre qui nous semble le plus fondé possible sur chacune de ces mesures. Et ensuite, charge aux partis justement de décider quel budget construire, quelle cohérence créer à partir de ces mesures, mais au moins qu'on soit d'accord sur les ordres de grandeur des différentes mesures.
Mais est-ce qu'il faut comprendre, Xavier Jaravel, que sans cette note du CAE, cette base de données, ces chiffres fiables ne seraient tout simplement inexistants ou
Ils existeraient, mais ils seraient très difficiles à rassembler. C'est-à-dire que souvent, c'est des chiffres qu'il y a dans les administrations, mais qui ne sont pas rassemblés en un seul lieu. Il y a aussi d'ailleurs des rapports qui ne viennent pas de l'administration, des rapports de l'Institut des politiques publiques, par exemple, ou de l'OFCE. Il y a aussi des revues de dépenses, de la Cour des comptes, de l'IGF. Donc tout peut être trouvé. Mais le travail qu'on a fait, c'était vraiment de tout rassembler au même endroit, de manière, on pense, assez simple. D'ailleurs, on a aussi un site web où vous pouvez aller et cliquer, voir comment vous feriez
votre budget.
Et parfois, il y a aussi des débats ou des chiffrages un peu divergents sur une même mesure. Et donc là, on a comparé quand il y a différents rapports et ensuite essayé de trouver ce qui nous semblait le plus réaliste, le plus justifié.
Donc Sébastien Cotte, si on comprend bien les propos de Xavier Jaravel, finalement, le budget tel qu'il est construit, notamment par le gouvernement, repose sur une agrégation de chiffres récoltés ça et là, mais qu'il n'existe pas finalement de base fiable, considérée comme objectif dans l'absolu.
Avant, alors, c'est un peu plus ça, bien sûr. Alors, le budget se construit avec énormément de chiffres, énormément de données. Peut-être qu'on peut faire un petit retour historique, si vous me le permettez. Quand on observe les premiers budgets tels qu'on pourrait les comprendre aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau de l'Empire, on voit apparaître en fait ce qu'on appelle des budgets de reconduction. On travaille sur ce qu'on appelle la pénultième année, c'est-à-dire que les gens connaissent tous l'antépénultième qui est l'avant-avant-dernière, la pénultième c'est l'avant-dernière. Donc on va se projeter deux siècles en arrière, on n'est plus en 2025, on est en 1825. Et là, pour préparer le budget de 1826, en fait, on va regarder les données qui ont été exécutées en 1823. Donc autant dire qu'on part de quelque chose de très très fiable. Évidemment, quand on fait des projections en repartant de ce qui a été vu ou exécuté il y a 2 ans, on n'anticipe pas du tout l'évolution de la situation. Néanmoins, les données sont fiables. Et les choses vont se compliquer parce qu'évidemment, l'action publique va se complexifier, l'État va être de plus en plus pensé, compris et intégré dans l'économie. Et donc, il y a un moment où il va falloir faire évoluer les outils de prévision, autant en recettes qu'en dépenses.
Xavier Jaravel, il faut aussi se pencher sur un autre axe de réflexion. C'est qu'on le sait, en économie, la neutralité, l'objectivité sont très difficiles à produire. D'aucuns diraient qu'elles n'existent même pas, et en particulier dans le cadre de discussions budgétaires qui, on l'a dit avec Sébastien Code, sont aussi par essence des discussions politiques, des rapports de force. Quel sens donner à vos estimations et préconisations quand vous dites dans cette note que l'horizon est de réduire le déficit afin de garantir la soutenabilité de la dette et la crédibilité financière du pays? Est-ce que c'est partir du principe que cet objectif-là fait consensus aussi?
Si vous voulez, c'est quand même une question pour le coup assez simple, qui est de dire quelle devrait être la taille de l'effort pour stabiliser la dette. Après, vous pourrez trouver des gens qui pourraient vous dire non, pas besoin de stabiliser la dette, mais ils sont quand même de moins en moins nombreux. C'est-à-dire qu'avoir un déficit de 5% hors période de crise, c'est très difficile à justifier. Il y a des principes économiques en période de crise pour dire on va relancer la demande, mais hors période de crise, on voit pas vraiment la raison. Et donc, on peut, je pense, se mettre d'accord sur le fait que il faut stabiliser la dette, et là, le calcul est tout simple, et c'est là qu'on arrive à ces 80 milliards. Et ensuite, une question qui se pose, c'est à quelle vitesse stabiliser la dette? Et là, souvent, le débat est très politique, et donc dans ce travail, on avance des arguments économiques. Donc, vous voyez, on a dit 80 milliards pour stabiliser la dette. Disons qu'on le fait en à peu près 6 ans, c'est nos engagements auprès de l'Union européenne. Vous pourriez vous dire, il faut lisser l'effort dans le temps, donc ça fait de l'ordre de 13 milliards et quelques par an,
ouais.
Si on divise 82 par 6. Et en fait, l'analyse économique vous donne un résultat un peu différent. C'est-à-dire que les efforts que vous faites tôt sont très utiles parce que, en réduisant le déficit aujourd'hui, vous allez réduire l'accumulation de la dette. Et donc, en fait, vous avez un bénéfice à agir plus tôt, qui est important, et que vous comparez à un coût, qui est que quand vous allez vite ou trop vite, vous pouvez aussi ralentir la croissance économique et donc avoir des effets délétères. Et donc, avec cette analyse coût-bénéfice, on arrive à la conclusion qu'un effort de l'ordre de, dans notre note, c'est 27 milliards d'euros la première année, ce qui est préférable du point de vue de cette analyse coût-bénéfice. Donc, on pense que ça, c'est un argument qui se comprend bien, mais certainement l'argument de dire voilà, l'effort global de 80 milliards, sur ça, il y a assez peu de débat dès lors qu'on est d'accord qu'on veut stabiliser la dette.
Définir des objectifs à la fois fiables et supportables, c'est l'exercice d'équilibriste auquel sont confrontés les gouvernements en charge d'établir le budget. C'était déjà le cas en août 1961, lorsque Michel Debré, alors Premier ministre, prononce son discours d'économie générale.
La situation de notre France est saine. Le budget de l'État, depuis 3 ans, est conforme dans son exécution aux prévisions votées par le Parlement. Il se maintient dans un état d'équilibre avec un excédent de dépenses par rapport aux recettes couvert par des ressources de trésorerie correspondant à ce qui est normal à notre époque et supportable pour la monnaie. Quels sont nos impératifs ? Ils sont clairs, ils sont simples, et je souhaite que tous les Français les comprennent et les adoptent. D'abord, maintenir un budget en bon état. Pas d'économie prospère, pas de progrès social, pas de hausse réelle du pouvoir d'achat si les dépenses publiques, par leur excès, l'emportent sur les rentrées fiscales et conduisent, pour des charges normales, à recourir à l'épargne. La règle que nous nous sommes fixée d'un appel mesuré à l'emprunt pour une part des investissements publics sera conservée, en même temps que l'équilibre budgétaire normal sera par ailleurs maintenu.
Sébastien Cotte, est-ce qu'un budget à l'équilibre, un terme qui revient beaucoup dans le discours de Michel Debré, est par essence un budget fiable? Dans quelle mesure c'est une obligation, presque un devoir, presque moral, mais aussi financier bien sûr? Faut-il donc équilibrer le budget?
Alors oui, il faut équilibrer le budget, c'est extrêmement important. Alors ça part d'une idée qui est presque un peu mythique. Hein. L'équilibre financier, c'est une représentation du monde, et la comptabilité, alors une représentation du monde en équilibre, dans l'Égypte ancienne, dans la Grèce antique, jusqu'au Moyen-Âge. Hein. Et en fait, évidemment, tout ça va se traduire dans la construction des comptes en équilibre. Donc en théorie, pour le dire simplement, dépenses égale recettes. Vous avez des dépenses et vous levez les recettes qui vous permettent d'équilibrer votre budget. C'est particulièrement important pour l'État, parce qu'en fait, on entend souvent dire que l'État est différent de l'individu, en ce sens que voilà, les ménages, eux, auraient un horizon à court terme assez clair, qui est le décès, alors que l'État n'a pas d'horizon à court terme, il a des horizons à très long terme.
Parce qu'il ne peut pas faire faillite.
Il ne peut pas faire faillite, voilà. Mais à mon avis, cette notion, elle est mal comprise, en tout cas mal interprétée. C'est justement parce qu'un État est à un horizon s'inscrit dans un horizon à très long terme, qu'il ne doit pas déséquilibrer son budget. Pourquoi ? Ses recettes récurrentes financent ses dépenses récurrentes, et ses recettes non récurrentes, ou exceptionnelles, ou financent ses dépenses extraordinaires. Dit autrement, je souscris complètement à ce que vient de dire Xavier Jaravel. Hein. C'est bien l'immuabilité de l'État qui oblige à le distinguer et à distinguer l'ordinaire de l'extraordinaire. Chaque année, l'État construit des collèges. Chaque année, l'État construit des lycées. Et ça reviendra l'année prochaine, et ça reviendra l'année d'après. Et ça fait un siècle que ça dure. Donc on n'a aucune raison d'envisager de financer la construction des collèges et des lycées par de l'emprunt.
Et pourtant, Sébastien Coste, c'est ce que l'on fait, et depuis un sacré nombre de décennies aussi. Donc, un disque qui a cette bascule de 1974, on pourrait se dire que ça fait bien longtemps que le budget de l'État n'est plus à l'équilibre, notamment par le recours à l'emprunt. On l'entendait aussi chez Michel Debré. Comment vous interprétez finalement cet abandon de l'objectif de l'équilibre ?
C'est compliqué à expliquer, hein. Ça serait plutôt à un économiste de le faire. Hein.
Bon, la raison
juridique, elle est clairement identifiée. On n'arrive pas à lever les impôts qui correspondent aux dépenses qu'on vote. Alors en fait, si je peux juste compléter un élément, donc je vous l'ai dit au début, on envisageait l'équilibre à travers la relation dépenses-recettes. Il y a des dépenses, il faut les couvrir. Donc la monarchie estimait qu'elle avait des dépenses et elle collectait l'impôt, elle répartissait le poids de l'impôt. Et en fait, on a un basculement qui va s'opérer dans les années 40, 50, 60. Et là, en fait, ce sont les recettes qui vont guider les dépenses. Donc, on va établir des impôts dits quotités, on va lever l'impôt et on va adapter le volume de la dépense à ses recettes. Or, là, le juriste peut le dire, on sait tous qu'il est beaucoup plus difficile de lever l'impôt que de comprimer la dépense. Et c'est vraisemblablement comme ça que moi, j'expliquerai l'augmentation des déficits à partir de 75-76.
Et du reste, c'est bien la partie recettes qu'on examine en premier. Je le disais, Xavier Jaravel, sur cette question. Et puis, si on tient ce fil rouge de la fiabilité, finalement, du budget, est-ce que la question de la dette n'est pas tant celle de son niveau, celle de son volume, mais plutôt les raisons pour lesquelles on s'endette, comme le disait Sébastien Coste à l'instant.
Oui, absolument. Peut-être que déjà un élément macroéconomique qui est important, c'est la baisse des taux d'intérêt ces dernières décennies, les 40 dernières années, du fait de plein de phénomènes macroéconomiques, le vieillissement de la population, l'épargne abondante en Asie, parmi d'autres phénomènes. Les taux d'intérêt sur les titres souverains, les emprunts d'État, ont baissé partout dans le monde. Et donc du coup, le fait d'augmenter la dette, comme les taux d'intérêt baissaient, ça montrait que ça se laissait entendre que cet endettement était relativement indolore, parce que les charges d'intérêt de la dette, en fait, n'augmentait pas tant que ça, parce que le taux baissait alors qu'on s'endettait plus. Et donc ça, c'est un exemple qui montre bien qu'en fait, on a eu une période assez spécifique. Là, aujourd'hui, les taux remontent. Et donc, le risque, c'est qu'ensuite, il y a un emballement et que, en particulier, pour un pays comme la France, qui n'arrive pas à maîtriser son déficit, les taux, soudainement, se mettent à augmenter. Et donc, en fait, il y a quand même une difficulté politique. C'est-à-dire que les efforts que vous faites aujourd'hui et bénéficieront... En fait, c'est une sorte d'assurance. Les efforts que vous faites aujourd'hui pour stabiliser votre budget... C'est créer une assurance contre le risque de crise de la dette plus tard et qui, en fait, bénéficiera surtout à vos successeurs. Donc, mais on voit bien que le débat maintenant est tourné sur cette question. Et on voit aussi, comme vous le disiez, qu'il y a un enjeu de savoir qu'est-ce qu'on finance avec la dette. Si on finance des sujets extraordinaires, réponse à une crise, investissement très ponctuel, donc la transition écologique même ne compterait pas vraiment parce que c'est des investissements qui doivent se déployer sur des décennies.
Et se répéter potentiellement.
Et en fait, on voit que la dynamique des dépenses publiques en France, elle est plutôt portée par les dépenses de transfert, notamment liées au vieillissement, aux retraites, à la santé. On est un pays où les retraités ont plus de revenus disponibles que les actifs, qui est une exception, où les retraités ont des taux d'épargne très élevés, qui du coup se retrouvent dans les questions d'héritage, parce que les retraités aisés peuvent épargner et ensuite laisser à la génération suivante. Et donc, c'est des éléments que François Bayrou, notamment, avait essayé de porter avec le dessin qu'on lui connaît. Michel Barnier avait, lui aussi, été tombé sur ce sujet de désindexation des retraites. Donc, il y a en arrière-fond ce sujet de pourquoi est-ce qu'on s'endette ? Globalement, pour financer un modèle social qui est important, qu'il faut préserver, mais qui, quand il n'y a pas assez de croissance économique... doit bien évoluer d'une manière ou d'une autre. Et le choix collectif qui a été fait jusqu'ici, c'est surtout de passer par la dette, ce qui crée évidemment des risques pour les générations futures.
Et on voit bien là l'importance de la charge politique aussi par rapport aux questions financières et aux questions d'équilibre que nous venons d'évoquer. Et nous continuerons à suivre les débats à l'Assemblée nationale. Les discussions vont durer jusqu'au 3 novembre et le vote solennel devrait avoir lieu le 4 novembre. Merci infiniment Sébastien Cotte et Xavier Jaravel d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, Entendez-vous l'écho continue pour sa seconde partie consacrée à l'histoire de la pensée économique. Et aujourd'hui, nous allons voir la façon dont l'accès à la consommation a constitué la base de projets politiques et économiques d'un genre nouveau.
Nous allons à la prospérité, j'en suis sûr. Nous allons à la vie meilleure. Nous allons à la vie plus digne.
France Culture.
Quelle serait la situation de bon nombre de mes compatriotes si aujourd'hui nous n'avions pas le système de protection sociale que nous avons, qui leur permet de conserver leur dignité? Ils seraient dans un état de misère que nous aurions du mal à soutenir.
Entendez-vous l'écho?
Cette société est capable aujourd'hui, en fonction de la croissance, de fournir à tous, et si c'est possible indistinctement à tous, une profusion de biens.
Était-ce le prélude d'une ère nouvelle où l'abondance permettrait de supprimer la misère? Beaucoup d'économistes le croyaient.
Aliette Ovine.
Notre modèle social est au cœur de multiples tensions, budgétaires certes, mais aussi idéologiques. Mais de quoi ce modèle social est-il au juste le nom? Force est de constater que dès lors que l'on parle de coupes budgétaires ou de remise en cause plus générale, des préoccupations très matérielles surgissent. Les coûts de la santé, de l'éducation, des transports, de l'énergie, dès lors qu'ils ne sont plus assurés par le collectif, finissent par retomber sur les individus qui pourtant ont choisi de faire société, ne serait-ce qu'en consentant à payer leurs impôts. Et si notre contrat social était avant tout matérialiste? C'est la question que nous posons dans cette série d'Entendez-vous l'écho. Aujourd'hui, deuxième épisode, la promesse de l'abondance. Si la promesse d'un filet de sécurité apporté à chacun a porté ses fruits, en atteste la mise en place de ce fameux modèle social dans l'après-Seconde Guerre mondiale, porté par une très forte volonté politique, il semble plus ardu d'aller au-delà. Promettre le minimum, c'est bien le minimum, justement. Plus cela devient compliqué, difficile de transformer les envies, voire les plaisirs individuels en projets collectifs. C'est toute la difficulté à laquelle est confronté le socialisme depuis l'avènement de l'industrialisation à travers la question de la consommation. Consommer, c'est déjà accepter le système tel qu'il fonctionne, c'est se demander comment profiter de la prospérité à titre individuel, et c'est donc accepter les règles d'un jeu largement dénoncé à gauche par ailleurs, celui du capitalisme. Pourtant, la notion de consommation va faire l'objet d'une véritable politisation. Les socialistes de tous bords et à des époques très différentes vont tenter d'en faire la base d'un projet de société collectif, de la subsistance à la prospérité, puis l'abondance, voire la surabondance. La question matérielle est une préoccupation majeure au sein d'une pensée socialiste qui cherche à comprendre quels sont les ressorts du lien social au fur et à mesure qu'elle accède aussi au pouvoir. Une histoire longue où individus et collectifs, abondance et émancipation de la société tout entière sont pensés de concert mais non sans faux accords. Et une histoire que retrace l'historienne de l'économie Alexia Blin. Elle est donc notre invitée du jour. Alexia Blin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire des États-Unis à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous êtes spécialiste d'histoire politique et économique de la période contemporaine. Et vous êtes l'autrice d'un ouvrage paru aux presses universitaires de France dans la collection Questions républicaines dirigée par Jean-Numa Ducange, intitulé « À l'assaut de l'abondance, socialisme et consommation du 19e siècle à nos jours ». Alors pour commencer, je laisse un peu le penseur de la société de consommation par excellence, celui peut-être qu'on connaît le plus, poser pour nous les bases de cette réflexion. C'était en 1969 et il s'agit bien sûr de Jean Baudrillard.
Je crois que la dynamique de la société de consommation et de l'image qu'elle se fait d'elle-même, cette image mythique et utopique, repose en effet sur le fait qu'elle hérite, à mon avis, de tous les mythes historiques égalitaires. C'est-à-dire tous les mythes politiquement mis en place depuis la Révolution française, mythes de l'égalité, de la justice, etc., me semblent en effet matérialisés maintenant dans celui de la consommation. Déjà, Tocqueville parlait effectivement d'une société de ce type où l'égalité, au fond, entre dans les mœurs sous la forme d'une égalité devant les objets, devant les besoins, devant les satisfactions. C'est à peu près là où on en est. L'idée que une égalité qui a du mal à se réaliser sur le plan politique, sur le plan économique, etc., se réaliserait à ce niveau-là, qui est proprement celui de l'appropriation des biens et des services. Là, enfin, on retrouverait un État qui serait proprement celui de l'abondance et en même temps celui d'une égalisation des statuts, des chances sociales, etc. À mon avis, c'est là le contenu du mythe et de la représentation collective.
Nous venons donc d'entendre la voix du sociologue Jean Baudrillard qui, en 1969, sur France Culture, dans l'émission « Au carrefour des sciences de l'homme », parlait d'un mythe de la consommation, mais surtout d'une idée que, par la consommation, l'idéal de l'égalité pourrait être atteint. Alexia Blin, c'est parce que cet idéal devient de plus en plus présent au cours des 19e et 20e siècles que la consommation peut être vue comme la clé de voûte d'une pensée collective et non purement individuelle de la consommation. Il y a vraiment cette idée qui commence à s'imposer que parce qu'il y aura cette égalité devant les objets dont parle Baudrillard, on va parvenir à atteindre une forme d'égalité plus globale.
Oui, sans doute. Alors, Baudrillard, il s'inscrit dans la tradition la plus critique de la consommation. Hein. Donc, ce que j'ai essayé de présenter dans l'ouvrage, c'était l'idée que... On attache généralement le socialisme à une critique de la consommation parce qu'on pense peut-être en priorité justement à des auteurs de la génération de l'époque de Baudrillard, entre les années 40 et la fin des années 60, qui vont être très critiques vis-à-vis de la société de consommation de masse et qui en même temps vont en voir les attraits, c'est-à-dire qu'ils vont pas nier le fait qu'elle a quelque chose de positif et qu'elle peut apporter des satisfactions. Et ça, mais ce que je voulais montrer dans l'ouvrage, c'est qu'il n'y a pas que ça dans le socialisme, qu'il y a une préoccupation du bien-être matériel qui est fondatrice, et que depuis le 19e siècle, il y a une préoccupation pour l'accès aux biens de manière égalitaire, en effet.
Et alors justement, Alexia Blin, là il faut bien nous expliquer aussi votre démarche, dans quelle mesure cette idée d'une prise en compte du matériel, mais aussi de questions matérielles, parce qu'elles peuvent fonder aussi une forme de contrat social nouveau, en tout cas une société nouvelle, une nouvelle façon de penser le collectif, dans quelle mesure ça peut être attaché spécifiquement au socialisme? Est-ce que le socialisme produit une pensée spécifique, on va dire, de la consommation?
Oui, ça. Alors en effet, c'est une question qui traverse l'ouvrage. Donc je pars dans le livre du début du 19e siècle et de l'émergence des premiers mouvements socialistes en lien avec les débuts de l'industrialisation et qui sont des... On trouve toute une série de penseurs qui sont très critiques de la manière dont le capitalisme industriel qui se déploie répartit les biens, justement. De manière très égalitaire, voilà, avec une consommation qui, à proprement parler, ne concerne qu'une très petite partie de la population, puisque le reste de la population est contraint à la subsistance plutôt qu'à la consommation réelle. Et qu'en plus, le fait que les riches puissent consommer, pour le dire simplement, dépend de l'exploitation des plus pauvres.
C'est très lié aussi à la question de la production, on va le voir. Alors, peut-être que c'est effectivement ce qui vient le plus spontanément à l'esprit, une préoccupation de gauche socialiste aussi pour les conditions matérielles dans lesquelles vivent les ouvrières et les ouvriers. C'est notamment le cas de Friedrich Engels. Je vous propose d'écouter un extrait de La situation de la classe laborieuse en Angleterre, paru en 1844.
La société individualisée à l'extrême ne se soucie pas des ouvriers et leur laisse le soin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Cependant, elle ne leur fournit pas les moyens de le faire de façon efficace et durable. Tout ouvrier, même le meilleur, est donc constamment exposé à la disette, c'est-à-dire à mourir de faim, et bon nombre succombent. Les demeures des travailleurs sont en règle générale mal groupées, mal construites, mal entretenues, mal aérées, humides et insalubres. L'aménagement intérieur des habitations est misérable. On tombe, par degrés, jusqu'à l'absence totale des meubles les plus indispensables. Les vêtements des travailleurs sont également en moyenne médiocres et en grand nombre sont en guenilles. La nourriture est généralement mauvaise, souvent presque impropre à la consommation, et dans bien des cas, au moins par période, insuffisante, si bien qu'à l'extrême, il y a des gens qui meurent de faim.
Un extrait de La situation de la classe laborieuse en Angleterre de Friedrich Engels en 1844, lu par Tina Young de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Alexia Blin, ce qu'on entend là est assez caractéristique de cette période-là aussi, lorsque l'industrialisation commence à devenir une réalité économique. Elle se traduit
il faut quand même le préciser, tout d'abord par une forme de paupérisation aussi de la population, au moins entre les années, on va dire la toute fin du XVIIIe siècle et jusqu'à environ la moitié du XIXe siècle. Il y a de nombreux exemples de socialistes qui se préoccupent des conditions de vie des plus pauvres. Donc il y a Engels qui, dès 1840, s'intéresse à la vie des travailleurs de Manchester, puis en 1873, qui va rédiger la question du logement. Plus tard, dans les années 1880, de nombreux journaux socialistes français vont décrire la détresse matérielle des ouvriers et des ouvrières. Quelle place occupe justement cette pensée de la subsistance alors chez les socialistes? Et surtout, est-ce qu'ils en ont le monopole? Est-ce qu'il n'y a vraiment que les socialistes pour penser cette misère?
Alors, en effet, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les socialistes, et notamment, avec, comme vous l'avez dit, avec cette idée que le capitalisme va paupériser l'ensemble de la population. Et en fait, ça correspond à quelque chose qui se passe sous leurs yeux. Effectivement, dans pendant la plus grande partie du 19e siècle, les niveaux de vie ne s'améliorent pas. C'est quelque chose qui change avec la fin du 19e siècle. Mais on voit du coup que pour fonder pour expliquer politiquement la nécessité de construire un système socialiste, beaucoup de penseurs sont amenés à décrire les conditions de vie matérielles terribles auxquelles font face en particulier les ouvriers. On l'a vu avec Engels, donc à propos des ouvriers de Manchester. Vous avez dit les journalistes français, les socialistes français qui écrivent des chroniques de la misère dans lesquelles ils vont décrire des faits divers terribles. Enfin, pas des faits divers, les morts de la misère en particulier. Et on voit que c'est ça qui fonde chez Fourier aussi également, un peu plus tôt encore qu'Engels, l'idée que le capitalisme détruit les conditions de vie populaires et que donc il faut imaginer d'autres systèmes. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui caractérise les socialistes. La question de la spécificité de la critique socialiste, je me la suis plutôt posée en ce qui concerne le XXe siècle. On y reviendra peut-être ensuite.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a cette question des enquêtes très larges, et cette question d'une tentation de quantifier aussi ce qui est en train de se passer. Il y a aussi la question de la qualité qui revient. J'ai trouvé ça assez impressionnant dans votre ouvrage. Il y a vraiment cette question de se poser finalement la question de la qualité du pain que mangent les ouvrières, les ouvriers. Une critique notamment chez Marx des denrées empoisonnées. C'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à ce que de grands penseurs, de grands théoriciens prennent en charge cette question de la qualité de la nourriture et tout ce qui s'ensuit, comme on l'explique à Alexia Blin.
C'est quelque chose qu'on trouve... c'est une manière de politiser la question de la consommation, comme vous l'avez dit plus tôt, et d'en faire une question de classe. Une question de classe sociale. Et Marx montre bien, par exemple, que Marx et Engels, c'est quelque chose qui les préoccupe tous les deux, que le pain des riches n'est pas le pain des pauvres, et que les denrées frelatées, qui sont un mal qui affecte l'Europe industrielle... pour une grande partie du 19e siècle, concerne en particulier les plus pauvres. Alors Engels l'explique par exemple en disant que les pauvres se fournissent dans des magasins dont ils sont plus captifs, alors que les riches vont avoir le choix, qu'ils peuvent se fournir dans des meilleurs commerces, qui ont souci de leur réputation, et que donc, il n'y a pas seulement une question de prix, il y a aussi vraiment une question d'option qui est offerte aux différents types de consommateurs, et c'est pourquoi, encore une fois, la consommation en tant que telle n'est pas vraiment pensée à ce moment-là, c'est plutôt... La consommation, elle est critiquée, c'est celle des riches, et les pauvres, on leur permet seulement de subsister avec des biens de mauvaise qualité.
C'est là qu'il faut faire un point très important, Alexia Blin, il était temps. Quelle définition donner de la consommation? Est-ce que effectivement, un ouvrier, une ouvrière qui achète de quoi se nourrir, on peut dire qu'il ou elle consomme. Est-ce qu'il faut distinguer la subsistance de la consommation de ce point de vue-là?
Avant le début du XXe siècle, c'est difficile en effet. On voit l'emploi du terme qui est quand même réservé à une partie limitée de la population. Le cas le plus net à ce sujet, c'est le livre du sociologue américain Thorstein Veblen sur la consommation ostentatoire, la théorie de la classe de loisirs en 1899, dans lequel il dénonce cette forme particulière de consommation qui est la consommation ostentatoire, c'est-à-dire qui ne répond pas à un besoin, mais un peu comme disait Baudrillard aussi, qui va répondre à des besoins de hiérarchisation sociale, de démonstration de sa puissance. Et là, on voit, voilà, c'est ça la consommation, en fait, pendant la plus grande partie du 19e siècle. Ensuite, ça change de sens, et les socialistes vont d'ailleurs avoir tout un tas de vocabulaire, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, différents, tout un tas de mots qu'ils vont employer, on voit qu'ils sont pas à l'aise avec le mot consommation en tant que tel, et ils lui cherchent un peu des termes plus précis pour affiner leurs critiques et leurs contre-propositions.
Et une façon de contourner la difficulté, et peut-être pour bien comprendre aussi cette idée d'une subsistance qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec cette idée de la consommation, il y a certains penseurs comme Étienne Cabet, qui dans son Voyage en Icarie de 1848, estime que la République doit fournir à ses membres d'abord le nécessaire, puis l'utile, et enfin l'agréable. Donc le matériel reste l'horizon politique, mais il y a quand même une gradation, Alexia Blain.
Oui, alors Étienne Cabet, donc c'est un penseur français du communisme qui est particulièrement important avant la révolution de 1848 en France, qui a de nombreux disciples, et dont l'idée est d'aller former des communautés idéales, notamment en Amérique du Nord, qu'il appelle donc une société, qu'il imagine idéale, qui s'appelle Icarie. Et donc il va le faire, hein, il va avec ses disciples traverser l'Atlantique et aller former des communautés qui vont être plutôt des échecs. Et il y a effectivement cette idée que ce qu'il appelle la République, c'est la communauté de ses disciples, doit fournir de quoi vivre. Et le travail est central pour ça. Et celui qui travaille, c'est le travail qui donne le droit à l'accès aux biens. Mais chez Cabet, il fait partie d'une tradition socialiste qui ne prône pas du tout le plaisir individuel et qui est au contraire très très frugal. Et donc l'agréable vient vraiment bien après l'utile. Il ne s'agit pas, c'est une formule que j'utilise dans l'ouvrage de Cabet, c'est point d'excès en rien.
Exactement.
Dès qu'on ne doit pas consommer d'alcool, qu'on ne doit pas consommer de tabac, surtout, il est particulièrement véhément sur ce point, mais qu'on doit satisfaire ses besoins primordiaux et ensuite, si possible,
accéder à d'autres biens, ce qui sera d'ailleurs.
Mais c'est simplement une des traditions du socialisme. C'est ce que je voulais. L'idée des socialistes complètement austères, c'est un des mythes qui est.
Parce que par ailleurs, c'est reproché aussi par Marx, notamment cette idée d'imposer une forme de consommation.
Oui, par exemple, c'est pas du tout présent chez Marx.
Voilà,
chez Marx, c'est quelque chose. L'idée de la frugalité, c'est quelque chose que vont prôner les économistes libéraux, en fait, contraindre les classes populaires à pas demander trop. Mais en fait, c'est juste une vision morale et qui correspond à aucune nécessité. Et on a d'autres penseurs socialistes comme Fourier qui vont au contraire prôner le plaisir, la satisfaction des plaisirs individuels. Donc il y a vraiment tout un tas de traditions qu'on retrouve aux différentes époques.
Vous l'avez dit, Alexia Blain, il y a cette idée de choisir peut-être d'autres vocabulaires que celui de la consommation. On a dit que c'était pour contourner la difficulté. La difficulté, elle est réelle tenter de mettre en place cet horizon matériel comme horizon de l'émancipation collective, ça ne va pas de soi non plus comme projet politique. Et d'ailleurs, au milieu du 19e siècle, c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup aux socialistes, que de vouloir rester trop terre à terre, on va dire, pour le dire très, très schématiquement. C'est le cas notamment de Louis Rebaud, hein, qui est un homme politique et un économiste conservateur en 1842. Lui, il reproche aux socialistes d'ouvrir la porte à tous les dérèglements, tous les excès, dépouiller la vie de son idéal et de détrôner l'esprit pour couronner la matière. Tocqueville, lui aussi, accuse les dirigeants socialistes de promouvoir une consommation illimitée qui serait immorale et irréalisable. Il y a quand même cette idée que la consommation n'est pas très porteuse politiquement, que ça ne peut pas être un objectif, ça ne peut pas être un horizon du collectif, qui est très forte avec celle-là.
Alors, ça change quand même, je pense, au XXe siècle, mais disons qu'au XIXe siècle, c'est un reproche, mais qui est un peu un reproche contradictoire qu'on va adresser aux socialistes, à la fois avec l'idée que ils promettent tout et son contraire, et que la société, tout le monde pourrait avoir accès à tout dans la société du futur, et que du coup, si on s'intéresse à ça, on s'intéresse trop aux besoins matériels et on perd de vue l'idée d'un idéal. Voilà, c'est ce qu'on trouve chez Louis Rebaud. C'est la mort du spirituel. Et en même temps, puisqu'ils seront incapables de tenir ces promesses, en fait, tout le monde va dépérir. Et donc, c'est à la fois la promesse, une fausse promesse d'abondance et une vraie promesse d'austérité pour tous.
Dans quelle mesure cette idée de s'intéresser au matériel qui ne serait pas digne, on va dire, entre guillemets, de raisonnement politique plus élevé, est aussi présente chez les socialistes? Dans quelle mesure c'est aussi cette question de se dire, bon, s'intéresser aux conditions de vie, c'est important, mais ça ne peut pas faire l'objet d'un socle, on va dire, de réflexion théorique suffisamment digne de ce qu'est la chose politique.
Ça, c'est plutôt une critique qu'on va trouver au XXe siècle, au moment où donc le capitalisme n'ayant pas abouti à la paupérisation comme l'imaginait une partie des socialistes. Au contraire, on voit les classes populaires améliorer leur niveau de vie et accéder à une certaine forme de consommation. Et là, il y a un peu la crainte que cette consommation dépolitise les classes populaires. populaire, et soit signifie la fin de tout idéal de changement social et de transformation collective. Et donc il y a une critique qui est à laquelle on résume souvent en fait la pensée socialiste, comme je le disais tout à l'heure, mais qui est bien réelle, l'idée que il faut pas se satisfaire d'un idéal qui serait simplement accéder à la propriété de son logement et de sa voiture, pour caricaturer, et que si on fait ça, on risque de perdre de vue des choses plus importantes.
Et c'est là où c'est la spécificité aussi de la pensée socialiste, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de dire de donner accès à davantage de biens ou davantage de matérialité, on va dire, c'est aussi repenser les façons de consommer en elles-mêmes, notamment pour échapper à ce piège d'une forme d'individualisme qui viendrait annihiler toute forme de volonté politique. Mais il y a quand même certains penseurs qui vont encore plus loin, qui font du matériel, qui font de la question de la consommation une force motrice quasiment révolutionnaire. C'est le cas de Kropotkine, par exemple, à la toute fin du 19e siècle. Lui, il dit que toutes les révolutions qui ont tenté de changer le monde, on va dire, ou de changer la société sans prendre en compte les besoins matériels, ont été plus ou moins vouées à l'échec. Ce sont des révolutions bourgeoises, donc ne pas prendre en compte le matériel, c'est quasiment être assuré que la révolution ne fonctionnera pas. C'est quand même un principe très fort, Alexia Blanc.
Oui, alors là, on revient effectivement un peu en arrière. Donc, à la fin du 19e siècle, il y a plusieurs penseurs socialistes de traditions assez différentes, en plus, qui ne sont pas d'accord entre eux sur d'autres choses, mais qui insistent sur le fait que les crises du capitalisme sont des crises de sous-consommation. Et qu'en fait, il faut inciter les classes populaires à consommer davantage et à ne pas céder aux sirènes de l'austérité ou aux sirènes à l'idée que ce qu'il faudrait, c'est juste travailler plus. Et là, il reproche, par exemple, à un socialiste français de la Révolution de 1848, Louis Blanc, d'avoir défendu le droit au travail comme horizon ultime pour les travailleurs. Et donc, c'est le cas de Paul Lafargue, le gendre de Marx, dans son pamphlet Le droit à la paresse. Et c'est le cas, effectivement, de Kropotkine en 1892. Et pour les deux auteurs, il y a cette idée que les ouvriers doivent d'abord réclamer, alors, du pain, ou chez Lafargue, c'est encore plus divers que ça, mais du bon vin et de la bonne chair. Mais chez les deux, il y a l'idée que c'est ça qui serait révolutionnaire. En réalité, ce serait que les ouvriers commencent par penser à leurs besoins. Et ils écrivent tous les deux, alors c'est en particulier présent chez Kropotkine, que les économistes classiques, alors ils parlent d'Adam Smith, ils parlent de Marx, commencent par parler de la production et finissent sur la consommation. Et Kropotkine dit en réalité non, il faut commencer par savoir quels sont nos besoins pour savoir ce qu'on doit produire et comment on doit produire.
Et du reste, cette pensée-là fait bien quelque part de s'affirmer au fur et à mesure que les niveaux de vie augmentent, que l'accès de fait à la consommation devient possible. Vous citez Michel Perrault dans votre ouvrage pour qui, à la fin du 19e siècle, derrière le gréviste se profile la silhouette du consommateur, Alexia Blin. Dans quelle mesure ces mobilisations de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et notamment en 1911, lorsqu'il y a des émeutes contre la vie chère qui explose un peu partout, conviennent aux socialistes? Dans quelle mesure ils y voient aussi une occasion potentiellement de changer les modalités de consommation, de changer potentiellement aussi la société?
Oui, alors c'est très compliqué le rapport des socialistes à ces mobilisations. Donc Michel Perrault, elle parle des ouvriers en grève à la fin du 19e en disant effectivement qu'il y a des revendications de consommateurs. Mais en fait, ce qu'on trouve, donc vous citez la crise de 1911, c'est plus des revendications de grévistes, c'est des revendications de consommateurs et en particulier de consommatrices, ce qu'on appelle les révoltes de la vie chère, qui contrairement aux crises du 19e siècle sont plus des crises, sont plus des famines, mais des moments où les consommatrices se révoltent parce qu'elles ne peuvent plus avoir accès aux choses auxquelles elles avaient accès avant. C'est plutôt une baisse de niveau de vie qui est dénoncée. Le pain coûte plus cher, les œufs coûtent plus cher, le poisson à certains moments, si on prend le cas de New York par exemple quelques années plus tôt. Et donc on a des mobilisations vis-à-vis desquelles les socialistes sont un peu mal à l'aise parce qu'ils les trouvent trop peu politisés. Il y a aussi une question de genre parce que ce sont des mobilisations de femmes auxquelles les leaders des partis socialistes européens et d'Amérique du Nord de l'époque font pas tout à fait confiance, qui trouvent pas tout à fait sérieuses. On a des manières de les traiter, des citations de leaders socialistes de l'époque qui montrent qu'elles sont traitées avec un peu de mépris. Et en même temps, certains y voient quand même le potentiel politique au sein de ces mobilisations. Alors c'est le cas, par exemple, donc je parlais de New York. Il y a des grèves de loyers ou des grèves ou des mobilisations dans les quartiers juifs de New York au moment où il y a des crises de la vie chère qui se produisent aussi dans ces années 1900-1910, où les partis socialistes, qui sont assez influents à l'époque, tentent de récupérer, en fait, on peut pas vraiment le dire autrement, ces mobilisations, en essayant de les politiser de l'intérieur, et en y voyant aussi un moment pour recruter des adhérents et des adhérentes en particulier. Donc, à la fois, on est réticent, parce qu'on pense que c'est pas de la vraie politique, contrairement à ce qui se passe dans les usines, contrairement au combat électoral, et en même temps, on le voit comme une opportunité... de politisation.
Alors, on l'a dit, Alexia Blin, tout l'idée des socialismes, alors quand on dit les socialismes, c'est extrêmement divers aussi en termes de mouvements, de périodes, entre les politiques qui incarnent ce pouvoir-là et puis les intellectuels, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même cette idée qu'on réinvente les modes de consommation. Ce n'est pas qu'une question de quantité, c'est aussi une question d'organisation nouvelle de la société. Il faut voilà, essayer de comprendre très concrètement ce qui a été mis en place à ce sujet-là. On peut citer, par exemple, parce que cette pensée, elle est présente très tôt, on peut citer, par exemple, William Morris qui insiste sur la nécessité de concevoir des bâtiments publics splendides, accessibles à tous. Finalement, c'est ça la promesse aussi des socialistes, c'est de se dire peut-être moins individuellement, mais pour produire plus somptueux encore à l'échelle collective.
Oui. Alors, en effet, donc vous l'avez dit, il y a beaucoup de penseurs différents qui ont traité de la consommation depuis le 19e siècle, mais j'ai essayé dans le livre de mettre à jour des points communs. Et un des points communs qu'on retrouve quasiment partout, il y a des exceptions, mais quasiment partout, c'est cette idée que la consommation individuelle, abondante, mène à rien, voire peut être dangereuse, mais que à partir du moment où elle est collective, l'abondance peut être quelque chose de positif. Collectif, décidé démocratiquement, à partir de besoins dont on aura débattu, et que donc là, il n'y a aucun problème moral à avoir du luxe quand il concerne le plus grand nombre. Et on le trouve en effet dès la fin du 19e, même en fait avant, mais c'est particulièrement sensible chez un penseur comme William Morris, donc un penseur britannique du socialisme, qui devient en fait marxiste révolutionnaire dans les années 1880, et qui publie en 1890 ces nouvelles de nulle part dans lesquelles il imagine sa société idéale. Et effectivement, dans les nouvelles de nulle part, il n'y a pas de richesse individuelle, mais les bâtiments publics sont somptueux. On trouve la même chose chez des auteurs américains comme Edward Bellamy aussi à la même période. Pourtant, ils sont d'accord sur vraiment très peu de choses, mais là-dessus, ils s'accordent. Et on retrouve ça, en fait... dans les partis communistes de l'après-guerre en France et en Italie,
qui proposent des loisirs aussi, notamment aux ouvriers, aux ouvrières. Et...
Voilà, et on le retrouve aujourd'hui chez la pensée des éco-socialistes, par exemple, en France ou aux États-Unis, cette idée qu'il ne peut être de luxe que collectif et que ce qui est dangereux à la fois pour la planète et pour une vision égalitaire de la société, c'est le luxe individuel.
Dans quelle mesure, Alexia Blin, on peut voir finalement l'avènement de notre modèle social, de l'état social de l'après-1945 comme une victoire finalement de cette vision socialiste? Alors, de parler de luxe, ce serait peut-être beaucoup, mais en tout cas, il y a ce filet de sécurité matérielle qui est assuré. Il y a cette idée d'assurer vraiment à tous le même niveau aussi de confort matériel minimal. Ce projet-là, il a été très porté par les communistes, les socialistes. Est-ce que c'est un succès selon vous? Est-ce qu'on peut le voir aussi comme l'achèvement de leur pensée?
C'est tout à fait ambigu en réalité, puisque effectivement, ça fait partie du projet. Et on peut y voir, puisque les services publics, finalement, c'est ça. C'est l'idée d'une consommation collective qui a réussi. Et quand ça marche, c'est très satisfaisant. Mais en même temps, on voit que donc, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais dans l'après-guerre, les partis communistes, en particulier en France et en Italie, construisent ce qu'on appelle une contre-société dans laquelle ils proposent, vous avez parlé des loisirs, des vacances, on peut parler du sport, on peut parler, bon, tout un type de consommation, c'est vrai aussi dans la culture collective, par les organisations affiliées ou proches du parti, qui sont assez proches de l'idéal de ce qu'on peut retrouver dans les premiers socialismes, et qui en fait vont disparaître avec l'avènement vraiment réussi d'un État social. Puisque quand l'État fournit des services publics, on n'a plus tellement d'intérêt à participer à ça, et que cette contre-société, elle s'était développée pour pallier les manques du capitalisme qui proposait pas ce genre de loisirs ou de consommation aux ouvriers. Une fois que l'État social le fait, le parti cesse de le faire, et du coup ça se dépolitise en partie, et l'État peut aussi fournir une consommation complètement dépolitisée. Comme on le voit, bon, je pourrais donner des exemples plus précis, mais c'est une victoire en demi-teinte.
Il ne faudrait pas pour autant conclure qu'effectivement l'État se désintéresse de la figure du consommateur, non. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a ce mouvement de dépolitisation. Vous citez dans votre ouvrage l'exemple de 1981, quand est créé le ministère de la consommation. Ça, c'est l'exemple typique de la dépolitisation. Pourquoi, Alexia Blin?
Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est que quand la gauche arrive au pouvoir en France en 1981, il y a de grands espoirs de la part autour de l'idée qu'il va se passer quelque chose autour de la consommation.
Et parce qu'on est aussi dans une ère de consommation de masse achevée. Voilà. Parce que, voilà qu'on est rentré
Et en fait, notamment, la gauche, le Parti Socialiste Français, depuis les années 1970, a repris à son compte une grande partie des revendications des associations de consommateurs qui datent des années 50-60, et qui vont défendre les droits des consommateurs. Mais là, on est dans une vision très différente de celle défendue par les socialistes, même si certaines sont en fait assez politisées et assez politisées à gauche. La vision, elle est néanmoins différente, parce que c'est souvent une vision de la défense du consommateur individuel. C'est-à-dire, bon, on peut revenir à Marx, ça veut dire la qualité des biens, mais dans une vision bien où la classe sociale a quand même beaucoup moins d'importance, et l'idée que ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les entreprises soient responsables des produits qu'elles mettent sur le marché, que on ait des garanties en termes de sécurité, mais beaucoup moins l'idée d'une consommation collective, d'une discussion collective sur les besoins, de la lutte contre la surconsommation, la lutte contre la publicité, ça disparaît. Et donc, ce dont se saisit la gauche finalement en 80, c'est quelque chose de très petit par rapport à ce qu'était l'idéal d'une consommation socialiste plus tôt dans le XXe siècle.
Et pour ne pas finir non plus sur une note trop négative, qui serait celle d'une dépolitisation totale de la question de la consommation, vous montrez bien dans votre ouvrage, Alexia Blin, qu'il y a de nouvelles façons de penser l'abondance collective aussi au sein de la gauche. Je renvoie les auditeurs, les auditrices à la lecture de cet ouvrage passionnant, À l'assaut de l'abondance, socialisme et consommation, du XIXe siècle à nos jours, paru aux presses universitaires de France. Et tout de suite, on retrouve Arnaud Aurin, qui, comme chaque semaine, tire pour nous le fil de l'écho.
France Culture, entendez-vous l'écho, Aliatovin.
Et aujourd'hui Arnaud, vous aussi vous revenez sur la pensée de Karl Marx et de ses erreurs de prédiction, car vous nous expliquez que contrairement à ce qu'il avait envisagé, le capital marchand ne s'est pas effacé face au capital industriel, en atteste la puissance des géants comme Amazon.
Vous avez peut-être entendu que le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé récemment la construction d'un entrepôt de 100 000 mètres carrés dans les Hauts-de-France. Or Amazon, comme Walmart et quelques autres, ne sont pas seulement grosses consommatrices d'énergie et d'espace. Elles ne font pas que mettre en difficulté les commerces traditionnels. Elles ne sont pas seulement pourvoyeuses d'emplois peu qualifiés. Ces quasi-monopoles sont en passe d'imposer leur pouvoir aux industriels. Autrement dit, contrairement à ce que pensait Karl Marx à la fin du XIXe siècle, rien n'est linéaire. Selon l'économiste, le capital marchand qui avait dominé au XVIIIe siècle devait s'effacer définitivement face au capital industriel. Il n'en est rien. Prenons la plainte de la Federal Trade Commission, l'autorité de la concurrence américaine, déposée contre Amazon en 2023. On peut y lire que pour de nombreuses firmes, les exigences d'Amazon entraînent des marges faibles, inexistantes, voire des pertes. Devant le Congrès américain, un fabricant d'accessoires de téléphonie mobile expliquait par exemple qu'Amazon baissait arbitrairement les prix de ses produits. Et si Amazon faisait des pertes, c'était à ce fabricant de les éponger. Si elles veulent tout simplement survivre, les firmes industrielles doivent se soumettre aux prix, aux manipulations de marché, aux conditions juridiques et même parfois au pillage de leurs données par Amazon. Et encore, Amazon pratique parfois des baisses drastiques de prix pour éliminer un industriel, puis lancer ses propres produits. Si au XVIIe et XVIIIe siècle, la plupart des grandes firmes négociantes n'étaient pas aussi puissantes, elles dominaient et dirigeaient le capitalisme industriel et agricole. Les négociants des grands ports atlantiques imposaient leurs conditions aux planteurs des colonies. Les fabricants de textiles étaient la plupart du temps subordonnés aux grands négociants internationaux. Prenons l'exemple de l'entreprise du futur économiste Jacques-Vincent de Gournay, installé à Cadix dans les années 1730-1740. Vincent et ses associés pratiquent un commerce d'arbitrage sur les produits coloniaux de l'Amérique espagnole. Mais ils importent et exportent aussi du textile. Or, en 1741, il n'entre quasiment plus de draps anglais en Espagne du fait de la guerre. Comme ces draps se vendent bien, Vincent fait envoyer des échantillons à la manufacture des frères Mayol de Carcassonne pour tenter des imitations. Les Mayol envoient leurs essais à Cadix. Ça ne va pas. La qualité est jugée médiocre, les couleurs défectueuses. Il faut recommencer. Puis Vincent fixe les prix des textiles des Mayol, naturellement à la baisse. Les industriels du Languedoc doivent subir des réprimandes sans fin. Humiliés et congédiés, ils n'ont jamais eu leur mot à dire face aux grands négociants de Cadix. Pourquoi ? Parce que ces négociants maîtrisent l'information économique, cultivent les liens avec les puissants, contrôle les prix par le capitalisme logistique. Or, aux États-Unis, la construction d'entrepôts a augmenté de plus de 1000% entre 2010 et 2022. Amazon, Walmart, mais aussi les grands armateurs mondiaux sont devenus des pieuvres logistiques. Ainsi, aujourd'hui, l'entrepôt tend à remplacer l'usine dans la formation de valeur. C'est le nouveau système des entrepôts qui génère une grande partie des rythmes industriels et l'arrivée de l'intelligence artificielle risque bien d'accentuer ce changement profond du capitalisme.
Merci beaucoup Arnaud, le fil de l'écho c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine.